7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Merci de nous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue. Mobilisation des recettes fiscales. L'impôt foncier représente moins de 10% de la recette fiscale. Sur la question des défis liés au recouvrement de l'impôt foncier, la DGI a récemment initié son séminaire bilan du premier trimestre de l'année 2024. Et puis plus d'un an après le lancement de la campagne de sécurité routière au plan national, à Divo, le nombre d'accidents ne fait qu'augmenter chaque jour. Les acteurs de la sécurité routière se sont retrouvés pour réfléchir sur des solutions idoines. Actualité sur le continent au Niger, une manifestation a eu lieu à Agadez, ville du Nord, qui abrite la base américaine. Et puis revue des titres, Mel Emmanuel, l'invité, revue des titres justement présenté par Mel Emmanuel vers la fin de cette édition. Et puis en toute fin de journal, l'invité de la rédaction ce jour est le député Jean-Gervais Tchaïdé, secrétaire général du PPACI. Il soutient, comme annoncé, que Laurent Gbagbo reste bel et bien leur candidat pour la présidentielle de 2025. Quoi qu'en disent les adversaires politiques, il sera interrogé par Francis Cassi. Bienvenue à tous et excellente journée. Mobilisation des recettes fiscales. L'impôt foncier représente moins de 10% de la recette fiscale, ce qui est anormal selon le directeur général des impôts. Bien sûr, la question des défis liés au recouvrement de l'impôt foncier et les stratégies innovantes pour y parvenir. La DGI a initié son séminaire bilan du premier trimestre de l'année 2024, récemment à Abidjan, pour apporter des solutions idoines afin d'atteindre ses objectifs. Écoutons les précisions du directeur général des impôts, Ouattara Siabou, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa.
Il y a beaucoup à faire en matière d'impôts fonciers et les attentes sont grandes au regard du potentiel que constitue cet impôt en Côte d'Ivoire. Le produit de l'impôt foncier représente moins de 10% de nos recettes. Ce n'est pas normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui connaît un boom immobilier. Nous devons donc nous remettre en cause et ensemble nous allons décliner les axes pour une amélioration des recettes en matière d'impôts fonciers. C'est là que le thème est intitulé « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?» L'impôt foncier constitue un de nos talons d'Achille. Et il faut y remédier en innovant, en termes d'idées, en termes de méthodes de travail, en termes d'outils de travail. Et au sorti de nos travaux, nous espérons pouvoir trouver la bonne voie, la meilleure stratégie pour une mobilisation optimale des ressources domestiques de façon globale, mais en particulier des ressources de l'impôt foncier. Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres, mais la première, elle est d'ordre sociologique. Ça, il faut le dire, nous rencontrons des difficultés à faire payer l'impôt par nos concitoyens. Je voudrais saisir l'occasion de cette tribune que vous m'offrez pour demander aux Ivoiriens de considérer que l'impôt qu'ils payent, c'est leur contribution pour le financement du développement de notre cher pays que nous aimons.
Voilà, c'était Jean-Gervais Ouattara Siabou, directeur général des impôts. Poursuivons cette édition, cette fois, et parlant d'environnement. La direction de la police forestière et de l'eau du ministère des Eaux et Forêts a organisé les 18 et 19 avril 2024 à Yamoussoukro un atelier de réflexion sur la lutte contre le sillage à façon et l'approvisionnement du marché national en bois légal. Cet atelier qui a réuni tous les acteurs clés de ce ministère devra permettre de trouver une solution durable à la problématique du sillage à façon sur toute l'étendue du territoire national. Les détails avec Emiliao.
À l'ouverture de cet atelier, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a révélé qu'en dépit des efforts consentis par son ministère pour la préservation et la gestion durable des forêts ivoiriennes, la question du sillage à façon demeure toujours préoccupante.
Malheureusement, pendant que tous ces efforts sont faits, je constate avec amertume qu'il y a une persistance du sillage illégal dans nos forêts, dans plusieurs zones du territoire national. Et ce grâce à la complicité avérée de certains de nos agents.
D'où l'intérêt de cet atelier de réflexion, indique Laurent Tchagba.
Je souhaite que pendant ces deux jours, vous ressortir des recommandations fiables et utiles afin que le ministère des Eaux et Forêts puisse accomplir avec aisance ses missions. Nous devons bouter hors de nos services les cadres et agents indélicats et tous ces clandestins sans foi ni loi qui anéantissent nos efforts.
Renchérissant sur le sujet, le maire adjoint de Yamoussoukro, Begré Luxon, a appelé à une action concertée afin de réduire et d'éradiquer cette activité nuisible.
Il est donc de notre devoir de nous unir et de travailler ensemble pour lutter contre cette pratique destructrice et pour promouvoir des alternatives durables.
Le ministre Laurent Tchagba a suggéré à ses collaborateurs d'organiser dans les jours à venir une rencontre avec les industriels du secteur forêt-bois à l'effet de les sensibiliser à la prise en compte des résolutions issues de l'atelier. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Nous sommes toujours avec vous, Émile. Au terme de cet atelier de deux jours qui aura enregistré la présence effective du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, de nombreuses recommandations ont été arrêtées. Quelques recommandations ici, quelques-unes, lues par Madame Koné, Namari Doumbia, chef du service communication du ministère.
Vulgariser les textes de loi à l'endroit des acteurs et parties prenantes, accroître la sensibilisation des acteurs du marché national, notamment les détenteurs de dépôts-ventes, les menuisiers et autres transformateurs de bois, à disposer d'agréments et d'autorisations nécessaires à l'exercice de leurs activités. Faire appliquer la loi dans toute sa rigueur en privilégiant la voie pénale au détriment de la voie transactionnelle en matière de procédures liées au sillage illégal. Sanctionner les agents techniques des eaux et forêts indélicats qui se rendraient complices de sillage illégal de bois. Sensibiliser les acteurs du système judiciaire sur les enjeux environnementaux et la lutte contre le sillage illégal du bois. Prendre un texte réglementaire pour définir la quantité et la qualité d'approvisionnement du marché local par les industriels. Revoir à la baisse la fiscalité pour les produits de bois destinés au marché local. Encourager les opérateurs économiques nationaux à s'intéresser à la vente de bois sur le marché local.
Koné Namari Doumbia, chef du service communication du ministère des Eaux et Forêts. Et puis, pour rappel, retenons que, au sens de la loi ivoirienne, l'exploitation artisanale ou sillage à façon renvoie au sillage du bois brut en produit semi-fini effectué au moyen d'une tronçonneuse, d'une scie mobile ou d'un matériel semblable sur un site d'abattage. Depuis éducation, réinscription, réouverture ce lundi de la plateforme d'inscription www.examenbts.net pour les candidats retardataires à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS 2024. Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la plateforme restera ouverte jusqu'au dimanche 28 avril 2024 à 23h59. Il est donc indiqué aux candidats retardataires inscrits qu'ils pourront déposer leur dossier et faire leur enrôlement biométrique du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2024 auprès des équipes du ministère qui seront installées au sein de l'établissement Cours Casting à Abidjan Plateau, en face de la direction des examens et concours. Et puis rappelons que cette réouverture pour l'inscription au BTS 2024 est la dernière, avertit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour rappel, l'inscription à l'examen du BTS 2024 était prévue pour prendre fin le 31 décembre 2023. Elles avaient été prorogées donc jusqu'au 19 janvier 2024. Parlons santé dans cette édition. L'Institut national de l'hygiène publique a procédé au lancement officiel de la campagne de démoustication dans la zone d'Abidjan Sud, Marcoury, Koumassi, Trècheville et Port-Boué. Ce vendredi 19 avril, à la place publique de la Caritas dans la commune de Port-Boué. Cette campagne, lancée donc en présence du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle, Dr Aka Kofi Charles, s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre la dengue, une maladie causée par la piqûre d'un moustique. Aka Kofi Charles revient ici sur cette maladie et les actions menées pour son éradication.
Il s'agit d'une maladie infectieuse transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique de type Aedes, moustique tigre blanc noir. Ce moustique pique particulièrement la journée, contrairement aux autres qui piquent la nuit tombée. La dengue est une maladie très grave de par ses complications. En Côte d'Ivoire, ce sont 3895 cas suspects, dont 321 cas confirmés, avec malheureusement 27 décès qui ont été notifiés jusqu'en fin décembre 2023. Initialement, dans le district sanitaire de Cocody-Bergerville, l'épidémie s'est généralisée dans tout le district autonome d'Abidjan. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a mis en œuvre un plan de lutte articulé autour de plusieurs points, parmi lesquels figure la lutte antivectorielle dans les communes de Cocody et de Bergerville. Les actions de mise en œuvre de ce plan ont permis de contrôler l'épidémie dans les dites communes. Dernier n'a pas été observé. Cependant, les valeurs des indices larvaires du risque épidémique se rapportant à Aedes aegypti traduisent un risque élevé d'épidémie d'arbovirose, de dengue, de fièvre jaune, de Zika et de chikungunya dans les dites communes.
Docteur Akako Fichara, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Et puis sécurité routière, plus d'un an après le lancement de la campagne de sécurité routière au plan national, à Divo, le nombre d'accidents ne fait qu'augmenter chaque jour. Au regard de cette préoccupation, situation très préoccupante, tous les acteurs des semaines de sécurité routière se sont retrouvés le 18 avril à la préfecture de Divo pour proposer de nouvelles solutions plus efficaces. Le point avec notre correspondant régional, la belle César Cassin.
Avec 170 accidents enregistrés au premier trimestre contre 140 à la même époque l'année dernière, le secrétaire général de préfecture de Divo, Gay Afoujanet, qui préside le comité de sensibilisation à la sécurité routière, exige plus de rigueur à l'avenir.
Ça n'a pas évolué. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec les autres actifs. Faites votre travail. Comme ça, vous n'avez rien à vous reprocher. Dans les autres localités, moi je parle avec mes collègues, ça a marché. Mais pourquoi à Divo ça ne peut pas marcher?
Le directeur départemental des transports, Jean-Yves Messine-Bois, suggère un traitement particulier aux phares à l'origine de certains accidents.
Vous ne ferez pas un kilomètre dans Divo la nuit sans rencontrer deux ou trois taxis avec anti-brouillard. Donc il faut qu'on ait des actions fortes pour casser tous les anti-brouillards.
Le commandant de gendarmerie, Ado Elizo, préconise le retour aux fondamentaux des contrôles pour mettre un terme aux accidents et à l'incivisme routier.
S'il y a une seule petite partie des agents qui jouent la fermeté et que les 80% sont dans le laxisme, mais c'est clair qu'on va taxer les autres choses, on doit parler le même langage. Et ça, c'est notre rôle. Nous, les chefs de service, nous, les différents commandants d'unité, il faut taper dur pour emmener nos hommes à vraiment changer.
Entre autres, les syndicats de transporteurs, la société civile, les forces de défense et de sécurité ont pris part à cette rencontre. De Divo à Bel César Cassin, Radio de la Paix.
Sur le continent, au Niger, une manifestation a eu lieu à Agadez, ville du Nord, qui abrite la base américaine. Plusieurs centaines de personnes réclament le départ des soldats américains à l'appel d'organisation de la société civile. Les États-Unis ont accepté, vendredi 19 avril, de retirer plus de 1000 soldats opérant dans le pays. Cette annonce intervient alors que le Niger a reçu le 10 avril dernier du matériel livré dans un avion Ilyushin, avec à son bord une centaine d'instructeurs russes. Le Niger a dénoncé en mars dernier l'accord de coopération militaire signé avec les États-Unis en 2012, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington. Sans transition, nous nous retrouvons pour la revue des titres Mel Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. La visite du ministre ivoirien de la Défense au Burkina Faso ce week-end intéresse la presse ivoirienne. Et sur les motifs de cette visite, Fraternité Matin titre, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, les enjeux de la rencontre des deux ministres de la Défense. Des enjeux que l'on pourrait comprendre en se référant à la une de l'intelligent d'Abidjan. Sécurité aux frontières, Tenebi Raïma Ouattara à Niamgoloko pour un nouveau départ avec le Burkina Faso. Vers une libération des deux gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso, s'interroge Dernière Heure Monde toujours sur les motifs ou enjeux de la visite du ministre ivoirien de la Défense au Burkina Faso. Quant au quotidien Le Temps, pour lui, le régime ivoirien, coincé, enverrait son ministre de la Défense pour négocier. Un autre sujet à la une de nos journaux, ce sont les changements opérés au niveau des concours d'entrée à la fonction publique. À quoi doivent s'attendre les candidats? Le Matin fait savoir que la ministre de la fonction publique, Anou Loto, va annoncer des changements majeurs. Pour ce qu'il en est, l'intelligent d'Abidjan note à son tour, voici les concours annulés en 2024. Et pour comprendre la raison de ces changements opérés au niveau des concours d'entrée à la fonction publique, il faudra se tourner vers Fraternité Matin qui écrit « Fonction publique,
pourquoi des concours sont suspendus. Également au menu de ce parcours des titres de la presse, les suicides à répétition dans l'armée ivoirienne. Suicide en cascade, une réflexion nationale s'impose, barre à sa une le sursaut d'un ton interpellateur. Un ton sur le même sujet repris par Soir Info qui titre ceci « Mort par suicide de militaires, gendarmes et policiers, un commissaire de police tire la sonnette d'alarme ». Merci à toutes et à tous et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous Emmanuel et puis on vous retrouve dans le prochain journal. L'invité de la rédaction de ce jour est le secrétaire général du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, et député Jean-Gervais Tchéidé. Il soutient que, comme annoncé, Laurent Gbagbo reste bel et bien leur candidat pour la présidentielle de 2025, quoi qu'en disent les adversaires politiques. C'est pourquoi il sera investi par son parti le 10 mai prochain. Jean-Gervais Tchéidé répond à cet effet aux questions de Francis Cassis.
Jean-Gervais Tchéidé, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme annoncé, le PPACI va-t-il vraiment investir le 10 mai prochain Laurent Gbagbo comme son candidat pour la présidentielle de 2025?
Oui, tout à fait.
Mais il est frappé par une condamnation judiciaire, lui faisant perdre ses droits civils et politiques. Alors, donc, il ne peut pas être candidat?
Non, ça c'est vous qui le dites. Il l'a dit lui-même à Beauville lors de la fête de la Renaissance. La condamnation dont il fait l'objet est une condamnation politique et fantaisiste, et donc qu'il ne reconnaît pas. Dans tous les cas, nous, PPACI, nous avons décidé que Laurent Gbagbo soit le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2027.
On sait que c'est la justice qui a rendu la décision. D'où vient-il que vous qualifiez cela de condamnation politique?
Lorsque le débat sera ouvert sur cette question, la question globale de la BCAO, braquage, tout ce qui entoure cette affaire, eh bien, nous irons plus loin dans les détails. Mais nous affirmons qu'il s'agit d'une manœuvre politique pour écarter un adversaire jugé dangereux et peut-être même inaffrontable. Et pour nous, ce n'est pas ça qui va nous arrêter.
Mais récemment, le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, déclarait que le PPACI prépare le désordre en Côte d'Ivoire en insistant que Laurent Gbagbo est son candidat.
Le secrétaire exécutif du RHDP dont vous évoquez les propos et que j'ai suivi moi-même aussi dans une vidéo, nous sommes entre nous frères ivoiriens, on ne peut pas traiter le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, président de la République de Côte d'Ivoire, de la manière dont ils le font. Je voudrais simplement dire que le PPACI, aujourd'hui, le parti politique créé par le président Laurent Gbagbo hier, qu'on appelle le FPI, pour ce parti-là, je mets quiconque au défi d'apporter la moindre preuve que depuis notre existence, notre combat politique, nous avons tenté quoi que ce soit contre notre pays, la Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi d'en apporter la moindre preuve.
Je cite encore Cissé Bakongo. Il a aussi dit dans cette déclaration que le RHDP ne va pas reculer tant que Laurent Gbagbo ne bénéficie pas d'une amnistie.
Ce sont des propos qui n'engagent que lui. Nous avons simplement dit que nous allons investir notre candidat à la présidentielle de 2025. Je ne sais pas en quoi le RHDP est concerné par ça et vous dit qu'ils ne vont pas reculer. Si tant est que, d'après eux, c'est une affaire de justice, qu'est-ce que vient faire un parti politique là-dedans pour crier au désordre? S'ils sont sûrs de leur affaire et que c'est une vraie décision de justice et non une décision politique qui a été prise contre le président Laurent Gbagbo, ils devraient rester sereins et attendre que la justice nous réponde. Nous sommes serein et nous disons Laurent Gbagbo est notre candidat.
Alors, vous campez sur votre position, le RHDP aussi campe sur sa position. Alors, pourquoi dans ce cas, le PPACI ne choisit pas un autre candidat?
Mais pour quelle raison nous choisirions un autre candidat? Parce qu'il y a un parti politique qui est au pouvoir et qui n'est pas serein et qui tremble dès qu'on prononce le nom du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que nous, on va changer de candidat?
Non, pour éviter un possible affrontement.
Non, il n'y aura pas d'affrontement du tout. En tout cas, pas de notre côté. Nous sommes en train de nous préparer tranquillement, démocratiquement, pour aller à cette élection. C'est de ça qu'il s'agit.
Mais honorable, récemment, on a vécu un bel exemple au Sénégal où Ousmane Sonko, sachant qu'il était empêché d'être candidat, il s'est fait simplement remplacer par Bassirou Diomaye Faye, un de ses lieutenants, qui au final a gagné l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que le PPACI ne songerait pas aussi à prendre cette voie?
On n'est pas du tout dans ce même cas de figure. Même s'ils pensent que l'État, c'est eux, et bien, il n'appartient pas au RHDP de dire que tel est candidat et tel est éligible, tel n'est pas. Il y a une institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel
C'est lui qui fait ça.
La Côte d'Ivoire veut vraiment la paix. Les dirigeants politiques que vous êtes, vous voulez vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire? Ou bien à quel jeu jouez-vous pour vous poser ainsi la question? Et cette question est adressée à toutes les personnalités politiques.
Le PACI, à ce jour, on n'a posé aucun acte délictuel. On n'a enfreint aucune loi. On n'a posé aucun acte qui puisse être assimilé à trouble à l'ordre public ou à une violation quelconque de la Constitution. Je ne vois pas en quoi on fait quelque chose de mal. En 2000, lorsque l'actuel président de la République, alors ancien premier ministre, a voulu être candidat, la Cour suprême de Côte d'Ivoire l'a déclaré inéligible. À l'époque, c'était le général Guy Robert qui était au pouvoir. Laurent Gbagbo était dans l'opposition. Lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir et qu'il y avait des discussions après Marcoussi, à la demande du président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, eh bien, le président Laurent Gbagbo, s'appuyant sur l'article 48 de la Constitution, a pris la décision afin que le premier ministre Alassane Ouattara et le président Ari Konan Bédier, qui étaient tous les deux inéligibles de par un arrêt de la Cour suprême, soient candidats à titre exceptionnel pour l'élection présidentielle.
Donc, est-ce à dire que vous attendez aussi du président actuel, le chef de l'État Alassane Ouattara, un retour de l'ascenseur à Laurent Gbagbo?
Nous disons que les Ivoiriens attendent de la classe politique qu'elle fasse preuve de responsabilité, que lorsque les élections approchent, le peuple n'ait plus la peur au ventre. Et donc, nous avons demandé à rencontrer le gouvernement. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu de réponse.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le peuple a la peur au ventre lorsque les élections approchent. Est-ce que le peuple ivoirien n'est pas fatigué parce que depuis, je dirais, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des violences politiques? Est-ce que les politiques ivoiriens n'ont pas pitié du peuple?
C'est à moi que vous posez la question.
Non, c'est à vous tous. Hein.
Pour moi, il faut qu'on arrête la spirale de la violence. C'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'on s'asseye pour discuter.
Jean-Gervais Keïdé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général du PPACI, était l'invité de la rédaction ce matin, annoncé justement Laurent Gbagbo. Pour eux, reste bel et bien le candidat pour la présidentielle de 2025, quoi qu'en disent les adversaires politiques. Il était interrogé par Francis Cassis, entretien qui referme ce 7h, le rappel des titres. Mobilisation des recettes fiscales, l'impôt foncier représente moins de 10% de la recette fiscale. Et bien sûr, la question des défis liés au recouvrement de l'impôt foncier. La Direction générale des impôts a récemment initié son séminaire bilan du premier trimestre de l'année 2024. Et puis à Divo, plus d'un an après le lancement de la campagne de sécurité routière au plan national, le nombre d'accidents ne fait qu'augmenter chaque jour. Les acteurs de la sécurité routière se sont retrouvés dans cette localité ce week-end pour trouver de nouvelles solutions. Et puis sur le continent, au Niger, une manifestation a eu lieu à Gadez, une ville du Nord, manifestation pour réclamer le départ des soldats américains. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour une autre édition. D'ici là, retrouvez Sonia Ndian pour Les Matins de la Paix.
Radio de la Paix, pour vous et avec vous.